Vous écoutez Envers et Contre tous.
Briser les chaînes, Jason Durand, Amaury Perrard.
Bonjour à tous et merci d'écouter ce premier numéro de notre chronique Envers et Contre tous. Et ce premier épisode s'intitule Briser les chaînes. Je suis avec mon collègue Amaury et explique-nous, Momo, le but de cette chronique.
Alors Jason, nous allons parler de la lutte sociale à travers la musique noire américaine. Donc pour cela, tout au long de l'année, nous aborderons un grand nombre de styles musicaux, en allant du jazz, au rap, en passant par le reggae et j'en passe. Mais pour aujourd'hui, remontons au tout début.
Pour commencer notre histoire, remontons fin 16e, début 17e siècle, dans ce qu'on appelle le Nouveau Monde, c'est-à-dire le continent américain. Les Européens, amateurs de denrées de luxe comme le café, le cacao, le tabac, le coton ou encore le sucre, vont créer un besoin d'augmenter les productions chez les planteurs du sud de l'Amérique et des Antilles, dont l'économie est basée sur l'agriculture. Et pour cela, ils vont faire venir une main-d'œuvre gratuite, donc des esclaves, du continent africain et plus particulièrement de l'Afrique de l'Ouest.
Alors, tandis que la société occidentale s'individualise, les Africains, eux, ont profondément cette culture du rapport social. Et cela se traduit notamment par la participation en groupe à des chants rituels. C'est pour eux un vrai moyen de communication. Ils l'utilisent à l'occasion de chasses, de guerres, de naissances, de mariages. Il est composé de chants et de percussions au rythme très élaboré. C'est donc tout naturellement que ces esclaves noirs, pour chanter la dureté de leur travail, s'adonnent au work song.
On va faire une première pause musicale avec une work song et on en parle tout de suite après. On vient d'écouter Early in the Morning, qu'on peut traduire par tôt le matin. En fait, c'est un chant de prison qui a été enregistré en prison aux États-Unis. Puisqu'on n'a pas d'archives de work song, au XVIIe siècle, il n'y avait pas encore d'enregistrement. Alors en quoi consistent ces work songs? Eh bien, en fait, ce sont des chants d'esclaves qui étaient pratiqués pendant le travail. Alors elles avaient deux utilités, ces work songs. La première, c'est que ça permettait aux esclaves de s'exprimer, chose qui leur était interdite. Et de deux, ça leur permettait de tenir la dureté de ce travail. Alors ça ne dérangeait pas les planteurs, puisque par la même occasion, les esclaves travaillaient plus vite et plus régulièrement en se basant sur les rythmes. Le rythme qui était marqué par les outils, que ce soit une pioche, une hache ou autre. Certains planteurs pensaient même que finalement leurs esclaves étaient heureux puisqu'ils les voyaient chanter dans les champs. Mais c'était tout le contraire, hein, comme Momo nous l'a expliqué avant, avec le fait que dans leur culture africaine, ils chantaient à tout moment de la vie, ça leur permettait justement d'extérioriser leur douleur, leur misère. Et c'est Frédéric Douglass, un abolitionniste, qui disait que c'était lorsque les esclaves étaient les plus malheureux qu'ils chantaient le plus. Momo, aurais-tu quelque chose à rajouter ?
Eh bien, la notion de work song est bien antérieure finalement, puisqu'elle existait déjà notamment dans la marine. Les marins chantaient, ce qu'on appelle d'ailleurs les chants de marins. Mais également, on aurait des traces en Égypte antique sur quelques tablettes hiéroglyphes au niveau des pyramides, comme quoi les paysans chantaient leur labeur et chantaient en espoir d'avoir une situation meilleure à travers de meilleurs salaires. Au final, les thèmes abordés sont souvent les mêmes, la dureté de la vie quotidienne ou bien l'espoir qui peut se traduire par juste une demande de vie meilleure ou alors à travers la religion qui sera d'ailleurs un élément clé de la culture noire américaine qui se retrouvera énormément dans la musique, notamment à travers le negro spiritual.
Oui, et on voit apparaître deux courants musicaux assez importants qui sont les negro spirituals et le gospel. Alors la différence entre les deux, c'est que le negro spiritual s'attache plutôt au sujet de l'Ancien Testament, et les gospels plutôt au Nouveau Testament, donc à la vie du Christ. On va inculquer aux esclaves beaucoup de la culture occidentale. On retrouvera ça dans la musique, c'est un mélange de leur culture africaine et de la culture occidentale. Et aussi, ils ont voulu partager, mais de façon plutôt obligée, hein, ils n'avaient pas vraiment le choix, leur foi chrétienne. Et donc très vite, on voit apparaître des églises destinées aux esclaves. C'est encore un endroit où ils vont pouvoir s'exprimer en toute liberté. Et ils vont chanter énormément dans ces églises. Et c'est comme ça que ces deux courants, ces deux mouvements musicaux vont apparaître. On fait tout de suite une petite pause musicale avec un morceau du Golden Gate Quartet et on en parle tout de suite après.
Wait in the water, wait in the water, children. Trouble the water. Why don't you wade in the water? Why don't you wade in the water, children? Wade right in the water. You know my God's going to trouble the water.
Now the first step I took in Jordan, well, the water came to my knees. So I took another step in Jordan, and the water came to my waist.
Alors nous venons d'écouter Wade in the Water, interprété par le Golden Gate Quartet. Alors, le Golden Gate Quartet est un groupe de négro spiritual et de gospel fondé en 1934. Donc évidemment pas par des esclaves, ce groupe a été fondé par deux jeunes noirs américains qui eux sont descendants d'esclaves. C'est pour cela qu'ils ont décidé de reprendre un chant d'esclaves et qui est intéressant car il a un double sens. C'est-à-dire qu'il est à la fois religieux, il parle de l'exode des Hébreux d'Égypte lorsqu'ils étaient esclaves et qu'ils ont été libérés par Moïse, mais il sert aussi d'instruction aux esclaves cherchant à s'échapper de leur maître, en leur disant notamment de passer par l'eau car ils pourront plus facilement se cacher. Et si on écoute les paroles du refrain, Wade in the water, God's gonna trouble the water, qui signifie patauge dans l'eau, passe par l'eau, car Dieu troublera cette eau, on peut voir dans le terme troublé un effacement des pistes pour ne pas être poursuivi par les maîtres, par les chiens, c'est vraiment brouiller les pistes de leur échappatoire. Et on peut voir à travers cela une première forme de résistance, puisque finalement, à travers la musique et la religion, se transmettent des messages aux esclaves, messages les encourageant ou leur donnant des instructions pour fuir notamment vers le nord, étant donné que là-bas s'organisent des groupes d'abolitionnistes ou d'anciens esclaves, afin de les aider.
On voit bien le lien entre la lutte sociale et la musique, c'est quand même notre sujet principal, on le rappelle ici dans cette chronique. J'ai envie de parler maintenant de l'Underground Railroad. Donc on entend par là le chemin de fer clandestin. En fait, c'était un chemin qu'empruntaient les esclaves pour s'enfuir du sud et aller vers le nord et aller même jusqu'au Canada, qui était une sorte de terre de liberté. Alors c'était pas tout à fait un chemin de fer en fait. C'était une métaphore, le train symbolisant la liberté, la fuite. Et on avait toutes sortes de terminologies comme ça, donc les gens qui aidaient les esclaves à trouver le chemin de fer, c'était les agents, les lieux secrets, c'était les stations, les esclaves en fuite étaient appelés soit passagers ou cargaison. Voilà, donc toute une sorte de terminologie. C'était un chemin très dangereux, où on risquait la mort si on se faisait attraper, donc très peu d'esclaves ont fait ce choix. Ils étaient à peu près 1000 par an, et en totalité, maximum 100 000 esclaves se sont peut-être enfuis par ce chemin. Il y a énormément de morceaux qui parlent de cette Underground Railroad et on va en écouter un tout de suite. On va écouter Swing Low, Sweet Chariot.
John, and what did I see? Come
venons d'écouter Swing Low, Swing Chariot de Etta James, une célèbre chanteuse de gospel, de blues, de soul, qui fait référence donc à cette Underground Railroad, le chemin de fer, entre guillemets, menant les esclaves du sud vers le nord pour ensuite rejoindre le Canada. Alors, pourquoi les esclaves voulaient-ils rejoindre le nord ? Eh bien, c'est parce que au nord s'organisent les premiers courants abolitionnistes. Le premier journal noir, le Freedom Journal, parut à New York en 1827. Des pionniers religieux et des humanistes intellectuels commençaient à s'organiser pour l'abolition de l'esclavage. Ils s'efforçaient d'influencer l'opinion du gouvernement par la propagande, la presse et la littérature. La cause abolitionniste trouva un puissant porte-parole, William Lloyd Garrison, président de l'American Anti-Slavery Society. Il réclamait une émancipation générale et immédiate par la persuasion morale et la non-violence. Il fit alors équipe avec Frederick Douglass, partisan déjà très actif et véritable symbole de la conscience noire au XIXe siècle.
Frederick Douglass, dont on a fait une citation précédemment dans cette émission, est né esclave en fait dans le Maryland et est devenu pour son investissement dans la lutte abolitionniste le véritable porte-parole des esclaves noirs au XIXe siècle. On vous invite d'ailleurs à lire son ouvrage « La vie de Frederick Douglass, esclave américain » qui a été écrit par lui-même et qui constitue un véritable classique des témoignages d'esclaves.
Certaines méthodes violentes étaient aussi employées. David Walker, un noir libre qui avait pu acheter sa liberté, avait écrit un appel ardent à la révolte des esclaves. « Tuez ou soyez tués. Si vous commencez, allez jusqu'au bout. Ne plaisantez pas, car ils ne plaisanteront pas avec vous. » Alors quelques esclaves se sont parfois organisés afin de mener des rébellions qui étaient armées et même sanglantes. Il y a eu des morts parmi les esclavagistes. Mais bien souvent, les participants étaient tout simplement retrouvés et pendus, et ça s'arrêtait finalement là. Ces rébellions étaient rares, mais avec la pensée abolitionniste de plus en plus présente dans les États du Nord, cela a suffi aux États du Sud pour paniquer. Après l'élection d'Abraham Lincoln, ils se mirent un à un à faire sécession, et le 12 avril 1861 éclate la guerre de sécession.
Alors la dureté de cette guerre de sécession contraignait Lincoln à accepter les premiers Noirs dans son armée en 1862, et il proclama un préliminaire d'émancipation, ce qui finalement donnait un sens nouveau au combat. C'est plus de 186 000 Noirs qui participèrent au conflit, et plus de 38 000 qui laissèrent leur vie. Alors ils étaient de manière générale moins bien payés, moins bien équipés, moins bien soignés et surtout voués aux tâches les plus pénibles. Les esclaves qui étaient encore dans le sud, eux, apportaient une aide considérable à l'armée nordiste puisqu'ils devenaient des espions et des saboteurs. Et finalement tout cet effort ne fut pas vain puisque le 9 avril 1865, le général sudiste Lee capitule. Et la guerre de sécession s'achève avec la victoire du Nord qui mettait du coup fin à 250 ans d'esclavage. Lincoln signe le 13e amendement qui abolissait l'esclavage sur tout le territoire des États-Unis. Et le 14 avril 1865, Lincoln tombait sous les balles car libérer les esclaves était certainement la dernière chose que souhaitaient la plupart des Américains. Alors à la fin de cette guerre de sécession, on voit apparaître un nouveau mouvement musical. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Momo ?
Alors oui, le blues est né dans les États du Sud, et c'est au départ une musique assez simple. Souvent un chant accompagné d'une guitare ou d'un banjo, et autour de trois accords, le bluesman chante sa misère quotidienne. Il s'agit de la musique des pauvres, hein, souvent des immigrés ou alors ces noirs nouvellement affranchis. Robert Johnson est souvent cité comme le pionnier du blues, car celui-ci l'a énormément popularisé dans l'État du Mississippi. C'est en tout cas l'un des premiers dont nous avons un enregistrement. Le terme de blues viendrait de Blue Devils, ces idées noires qu'on ruminerait après avoir signé un pacte avec le diable. En tout cas, c'est Robert Johnson qui le raconte dans cette chanson « Me and the Devil Blues ».
Early this morning when you knocked upon my door, early this morning he knocked upon my door, and I said, "Hello, Satan, I believe it's time to go." Me and the devil was walking side by side. We're walking side by side. I'm going to beat my woman until I get satisfied.
C'était Me and the Devil Blues de Robert Johnson. C'est encore un courant très imprégné du quotidien des esclaves noirs et de ces nouveaux hommes libres. Alors au final, les États du Sud, après la guerre de sécession, ont réintégré l'Union, mais ils avaient le droit d'appliquer leurs propres lois, comme les restrictions en matière électorale, et un système fondé sur la stricte séparation raciale, qu'on appelle la ségrégation, allait s'imposer sur la totalité du territoire des États-Unis. Donc en fait, pour conclure, les esclaves se sont vus refuser l'instruction, la terre et l'exercice de leurs droits civiques. Tout ça en étant maintenus constamment à l'extérieur de la société. La plupart des affranchis allaient finalement encore une fois sombrer dans une existence de misère et d'humiliation, avec la ségrégation qui détruisait leur espoir et leur avenir. Et comme on a pu le voir, ces conditions humaines ont donné naissance à de nouveaux courants musicaux, qui vont d'ailleurs par la suite influencer toute l'histoire de la musique. Ce premier numéro d'Envers et contre tous, intitulé « Briser les chaînes » est terminé. Vous pouvez le réécouter en podcast sur le site de Radio Déclic, www.associationdeclic.org. On va finir cette émission avec un morceau beaucoup plus récent de l'artiste Kazay, une rappeuse française. On va écouter « Sac de sucre » qui fait référence à la période de l'esclavage qui a été le sujet de notre émission aujourd'hui. C'est un morceau qu'on retrouve sur l'album « Libérer la bête » de 2010. On vous dit à dans deux semaines et surtout, écoutez du bon son.
J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée. Y'a pas de champ de canon en jachère. Tous les jours on y laisse et sa sueur et sa chair. Et nos pauvres corps meurent sans repos ni fraîcheur, avec chapeau et foulard pour contrer la chaleur. Descendant de ces féroces croisières négrières, on garde force et courage en chantant à plusieurs. Il n'y a pas que le salaire pour creuser nos malheurs. Nos anciens tortionnaires sont nos nouveaux employeurs. Après avoir brûlé les barrières, arraché la lanière du fouet, levé les paupières vers la lumière et venir embrasser le rêve d'une vie meilleure où le nègre y serait une bannière à ses propres couleurs. On a mangé la poussière de la pire des manières, peu fier de retourner dans la plantation d'hier. La mer est une frontière, comment aller ailleurs? Désormais libre, ouais mais toujours inférieur. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. Où va le fruit de mon labeur? La douleur de mes bras et mes lombaires, la lourdeur de mes jambes et toutes ces longues heures à ratiboiser la canne pour battre ma misère. Et les blancs sont aisés, malins et rusés, ont belle maison et timoun scolarisé, soi-disant qu'il ne faut rien leur refuser. Moi j'ai la peau sur les os, sous une chemise usée. J'ai aidé les voisins, rassemblé mon réseau, j'ai sorti mon coutelas, aiguisé mes ciseaux et pris la décision sans trouble ni confusion de baptiser le béquet d'une belle incision. Malfaisant, insolent, sur son trône installé, estimant comme son bien des terres qu'il a volées. Son destin sera le mien dès qu'il sera esselé. Il va entendre et comprendre et il pourra bien gueuler. Je laverai l'affront, je vengerai l'Afrique, les fonds de cale et le travail forcé à coups de trique. Et si le rhum et l'argent coulent à flot, c'est que j'ai un sac qui pèse un massacre sur le dos. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. Combien de massacres pour un sac de sucre? Ma vie se consacre à porter ma misère dans un sac de sucre. Combien de massacres pour un sac de sucre? Ma vie se consacre à porter ma misère dans un sac de sucre. Un sac de sucre.